en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, peut-on prévenir l'asthme des nourrissons par le biais du lait maternel? Voilà la question à laquelle Valérie Ferrasselt, chercheure à l'INSERM, a tenté d'apporter des réponses. Les expériences qu'elle a réalisées sur les souris valident cette hypothèse. En effet, une mère en contact régulier avec des allergènes induit une prévention de l'asthme à son sourisseau. En transmettant l'allergène par le biais du lait maternel, elle induit une tolérance à sa progéniture. De la souris à l'homme, il n'y a qu'un pas, mais les études sur les êtres humains sont bien sûr plus complexes, comme vous le devinerez. Valérie Ferrasselt est chercheure au laboratoire des maladies infectieuses auto-immunes et allergiques à l'unité 924 de l'INSERM à Valbonne. Elle était invitée à présenter ses travaux lors d'une séance de l'Académie des sciences consacrée aux grandes avancées françaises en biologie. C'était en juin 2008. Écoutons sans plus tarder son intervention.
Donc moi je viens du nord, de Bruxelles, et je suis arrivée dans le sud, au Pays du Soleil, dans un laboratoire de biologistes, et moi je suis médecin de formation, et c'est l'ensemble de ces conditions qui ont permis la génération, je pense, d'une idée, surtout en plus la très grande ouverture d'esprit du chef de laboratoire, Nicolas. Et donc, quelle est cette idée? Eh bien, arrivée dans le sud, j'étais impressionnée par les quantités de pollen de cyprès qu'on retrouvait sur les voitures, sur la route, et j'étais vraiment impressionnée de voir des routes jaunes de pollen. Et là, dans mes souvenirs de mère, je me souvenais que ce que je mangeais pouvait passer dans le lait. Je me suis dit, ben, dans le fond, est-ce que ce qu'on respire pourrait pas aussi passer dans le lait? Et donc, de là, protéger le petit, sachant donc que les pédiatres, actuellement, dans la grande majorité, conseillent d'allaiter pour prévenir l'asthme. Donc, voilà l'hypothèse en résumé. C'était une maman qui allaite bien heureuse dans la nature ou chez elle, va respirer différents pollens, différents allergènes, comme les allergènes des acariens, les poils de chat, les pollens. Et peut-être que, comme les aliments, donc, ces pollens pourraient passer dans le lait, y être transmis aux petits. Et le petit recevrait donc non seulement le pollen par la voie de la respiration, mais aussi par la voie du lait. Et donc le lait, on le sait, on en reparlera après, est un milieu extrêmement riche. Et pour le petit, recevoir un pollen dans du lait serait peut-être bénéfique et lui permettrait donc d'induire ce processus immunologique particulier qui est la tolérance, autrement dit l'acceptation d'une substance de l'environnement. Donc, on remercie aussi vivement les souris. Parce que pour étudier cela, nous avons eu recours à un modèle animal très simple. On a pris des souris et à partir du moment où elles ont accouché jusqu'à la fin de la période d'allaitement, on les a exposées tous les deux jours à un allergène modèle de la protéine d'œuf, le blanc d'œuf. Et on exposait ces souris tous les deux jours pendant 20 minutes, pendant les trois semaines d'allaitement. Pendant ce temps, les petits n'étaient pas présents, de manière à ce qu'on soit sûr que le pollen, entre guillemets, l'allergène ne soit que transmis aux petits par la mère, par le lait. Une fois les petits devenus grands, on en a testé notre hypothèse. Est-ce que ces petits qui ont été allaités par des mamans qui ont respiré ou qui n'ont pas respiré un allergène vont avoir un développement différent d'asthme? Alors, comment est-ce qu'on teste chez la souris l'asthme? D'abord, on la rend allergique. La souris n'est pas spontanément allergique. Ici, voilà. Donc, on sensibilise la souris à notre allergène modèle, notre protéine d'œuf, en administrant cette protéine d'œuf avec un adjuvant, donc une substance qui va favoriser le déclenchement de réponse immunitaire. Et puis, on veut avoir de l'asthme. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'asthme? Eh bien, on va recruter les cellules du système immunitaire dans les poumons en faisant respirer à ces souris notre fameux allergène. Comment est-ce qu'on va regarder chez la souris s'il y a de l'asthme? Eh bien, on va essayer de se rapprocher de ce qu'on fait chez l'homme en s'adaptant. Donc, pour un être humain, on veut évaluer la fonction respiratoire, va passer des épreuves fonctionnelles respiratoires. Chez la souris, on a des petites cages où on va mettre la souris dedans et par des mesures, on va pouvoir mesurer les résistances des voies aériennes. Car vous savez donc que dans l'asthme, un des symptômes majeurs, c'est une constriction des bronches quand on respire son allergène, mais aussi à n'importe quoi, quand il fait froid, quand on court. Et cela traduit une résistance accrue des voies aériennes qu'on va donc pouvoir mesurer grâce à cet appareil. Alors, d'où vient cette résistance accrue des voies aériennes? Elle vient du fait que les voies aériennes d'une souris asthmatique et aussi d'un humain sont le siège d'une inflammation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules du système immunitaire qui sont recrutées et qui vont libérer des tas de médiateurs qui vont entraîner une bronchoconstriction. Alors, nous, on va vérifier qu'il y a de l'inflammation comment? Soit en prenant les poumons des souris, en les coupant et en faisant de l'histologie, soit en lavant les poumons et en recueillant les cellules qu'on retrouve dans les poumons. Cela nous permettra de voir s'il y a ou non d'inflammation. Comme vous le savez aussi, chez un individu allergique humain, on mesure les RAS, c'est-à-dire les anticorps anti-allergènes. Eh bien, on fait la même chose chez la souris, on prélève du sang et on dose différents anticorps. Et enfin, la cellule qui gouverne toute cette pathologie est une cellule du système immunitaire, le lymphocyte T, qui produit certains médiateurs, certaines cytokines appelées TH2. Et donc, on va rechercher en culture si nos lymphocytes T dans les souris produisent ou non ces fameuses cytokines. Alors, c'est là qu'on a eu de la chance. L'idée était bonne. On a en effet observé que les souris qui avaient été allaitées par des mamans exposées à l'allergène pendant la période d'allaitement, ces souris allaitées, une fois adultes, eh bien, étaient protégées vis-à-vis du développement d'asthme. Et on a observé ça, que l'on prenne une souche de souris blanche, des souris noires. On a observé ça avec notre protéine d'œuf, mais avec aussi un antigène tout à fait non lié. Et on a aussi observé que ce qui était assez intéressant, c'est que la protection était spécifique de l'antigène. Si on faisait respirer à la maman de l'œuf, le petit était uniquement protégé vis-à-vis de l'œuf. Si on faisait respirer à la maman un antigène Y, il était protégé uniquement vis-à-vis de cet antigène Y. Alors, vous me croyez, je vais vous montrer juste un des paramètres et non pas tous les paramètres possibles qu'on analyse chez la souris. Je vais vous montrer l'inflammation des voies aériennes. Vous avez ici en fait une coupe d'une poumon d'une souris normale, une souris qui n'a pas été rendue asthmatique, une souris naïve que vous achetez. Voilà, vous voyez son poumon avec ici les bronches et les alvéoles pulmonaires. Et si on lave les poumons et qu'on recueille les cellules, bien on retrouve une certaine quantité de cellules assez faibles qui sont essentiellement des macrophages. Si maintenant on a une souris qu'on a rendue asthmatique par nos injections d'ovalbumine avec l'adjuvant, mais comme vous voyez, le poumon, ici vous avez une bronche et ici un vaisseau, vous voyez un grand infiltrat de cellules. Et si on lave les bronches, on recueille des cellules, on les compte, vous voyez une nette augmentation du nombre de cellules dans les bronches. Et si par analyse, par fax ou par coloration, on regarde quelles sont ces cellules, on retrouve une population particulière des éosinophiles, ce qui sont des cellules typiquement retrouvées dans l'asthme. Enfin, maintenant, la population qui nous intéresse, ce sont les souris qui ont été allaitées par des mamans qui respiraient l'allergène pendant la période d'allaitement. Et là, comme vous voyez ici donc l'histologie, on voit encore quelques infiltrats cellulaires, mais nettement moindres que la souris asthmatique. Et si vous regardez ici, le nombre total de cellules est nettement diminué, ainsi que ces cellules appelées les éosinophiles, extrêmement diminuées. Alors, bon, en effet, l'hypothèse est juste, en tout cas chez la souris. On voit que des souris allaitées par une mère exposée à un allergène sont protégées. Évidemment, on va se demander comment ça fonctionne. Et il y avait deux paramètres qui nous intéressaient plus particulièrement. C'était évidemment le lait. Comment se fait-il? Et y a-t-il quelque chose dans le lait des mères exposées à l'allergène qui permet cette protection? Et aussi, voilà, cette souris adulte qui est protégée, comment fonctionne cette protection? Comment expliquer cet état de résistance? Alors tout d'abord, le lait. Le lait maternel, c'est vraiment une source extraordinaire de médiateurs pour le nouveau-né qui est considéré comme immature. Et si le lait va apporter énormément de facteurs qui va aider à ce nouveau-né à se développer pour le mieux possible. En lui apportant quoi? En lui apportant des défenses antimicrobiennes qui sont très basiques, déjà mécaniques, en permettant au système digestif d'être plus imperméable, en apportant des antibiotiques naturels qui empêchent les microbes de se diviser, en favorisant la croissance de certaines bactéries qui vont empêcher la croissance de bactéries pathogènes. Et ce qui est très connu aussi pour le lait, vous savez tous, c'est la présence d'anticorps qui sont fondamentaux pour conférer une protection vis-à-vis des infections, des microbes que rencontre la mère et donc le petit. Et donc, le grand effet protecteur connu de l'allaitement, c'est l'effet protecteur sur les infections digestives, les diarrhées et pulmonaires, donc les infections respiratoires, par ce passage, cette immunisation passive du petit par le transfert d'anticorps. Alors, comme vous le savez aussi, on retrouve les antigènes alimentaires dans le lait. Et enfin, des facteurs dits immunomodulateurs, ça veut donc dire quoi? Qui vont influencer le fonctionnement du système immunitaire de l'enfant. Donc, première cible qu'on a cherchée, c'était les anticorps. C'était évident qu'on s'intéresse d'abord à cela. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la protection était antigène spécifique. Donc, une maman allaitée par de l'ovaire rendait le petit protégé vis-à-vis de l'ovalbumine. On s'est dit, peut-être que c'est simplement que la maman transmet des anticorps anti-protéines d'œuf et pour une raison X ou Y, ça va protéger le petit. Pour tester cette hypothèse, ce fut très facile. Encore merci aux souris. On a pris des souris déficientes des mamans souris déficientes en anticorps. Et il n'y avait donc pas d'anticorps dans le lait de ces souris-là. Et on les a fait allaiter des petits tout à fait naïfs, tout à fait normaux. Et bien même les mères déficientes en anticorps pouvaient transmettre la protection. Et donc l'absence d'anticorps dans le lait n'empêchait pas du tout l'induction de protection. Alors notre hypothèse, vous vous souvenez au début, c'était en fait les antigènes. On sait que les antigènes alimentaires se trouvent dans le lait. On s'est dit, bien, quand on fait respirer notre souris ces antigènes, est-ce que les antigènes respiratoires inhalés se retrouvent aussi dans le lait? Eh bien oui, on a pu retrouver, en prenant du lait de souris, donc soit en lait traillant, ce qui est assez périlleux, soit en prenant le lait d'estomac des bébés, et en analysant par des techniques faciles de laboratoire la présence de protéines d'œufs, on a retrouvé en effet que la protéine respirée par la mère se retrouvait dans le lait. Et donc la présence de cet antigène était, respiratoire était nécessaire aussi pour induire la protection. Alors est-ce que ça suffisait d'avoir l'antigène respiré par la mère? Non, ça ne suffisait pas, parce qu'on a vu qu'il y avait parmi ces facteurs un facteur qui était aussi nécessaire. Alors on en a analysé plusieurs, et un qui a retenu particulièrement notre attention, c'est le TGF-bêta, qui pour les immunologistes est une cytokine très importante. C'est un peu la cytokine impliquée dans les mécanismes de contrôle de tolérance. Donc la tolérance immunitaire dépend énormément du TGF-bêta, aussi dit IL-10, mais cette cytokine-là est particulièrement importante et comme par hasard aussi se retrouve en très très grande quantité dans le lait. Eh bien, nous avons vu que si on avait des souris qui étaient dépourvues de TGF-bêta dans leur lait, eh bien, dans ce cas-là, on n'avait plus de protection. Donc, en résumé, on a pu montrer que pour que les souriceaux allaités par des mamans exposées à un allergène soient protégés, il fallait à la fois le TGF-bêta dans le lait et l'allergène qu'elle avait respiré, et que ces deux paramètres-là étaient tous les deux nécessaires pour induire cette protection. Alors, dernière question, c'était, ben voilà, notre souris est protégée à l'âge adulte, comment se fait-il qu'elle est protégée? Et donc, la tolérance immunitaire recouvre plusieurs mécanismes. Soit un des mécanismes, c'est la délétion, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus chez l'individu de cellules qui réagissent contre un antigène donné. Une autre possibilité de régulation, c'est les mécanismes de suppression. Ça veut dire que le système immunitaire contient des cellules qui suppriment la réponse immunitaire. Et donc, on a testé cette hypothèse-là. Alors, comment on teste ça au laboratoire? Eh bien, on a pris une souris qui était protégée. On a isolé de cette souris des lymphocytes et on les a injectés dans une souris naïve. Et on a voulu voir si ces cellules injectées avaient une activité suppressive et allaient empêcher le développement d'asthme chez cette souris. Eh bien oui, c'était le cas. Quand on a transféré des lymphocytes d'une souris protégée, on a empêché une autre souris elle-même de devenir asthmatique. Et donc en conclusion, oui, on a une souris à l'âge adulte qui a été allaitée par une maman exposée à un allergène, possède des lymphocytes régulateurs qui exercent une suppression et empêchent le développement d'asthme. Voilà donc en résumé ce que nous avons observé. Nous ne l'avons pas observé chez l'humain, nous avons observé ça évidemment chez des petites souris. On a observé qu'une souris qui respirait un allergène, on a observé que cet allergène pouvait se retrouver dans le lait, que la présence à la fois de l'allergène et d'une molécule particulièrement connue pour ses effets immunosuppresseurs, le TGF-bêta, pouvait être transmis donc par le lait maternel aux petits, et que l'allergène plus le TGF-bêta allait permettre la génération de cellules régulatrices, et que ces cellules régulatrices allaient persister jusqu'à l'âge adulte et rendre cette souris résistante à l'induction d'asthme. On a donc mis en évidence trois facteurs cruciaux pour prévenir l'asthme par l'allaitement: la présence de l'allergène, la présence de TGF-bêta dans le lait et la capacité du nouveau-né de générer des lymphocytes régulateurs. Alors actuellement, au laboratoire, on essaie de mieux caractériser qu'est-ce qui se passe chez le nouveau-né, comment on induit de la tolérance orale chez le nouveau-né. Donc tolérance orale, ça veut dire comment est-ce qu'un antigène administré par voie orale chez le petit peut induire ces cellules régulatrices, car il semble que les mécanismes soient très différents chez l'humain. De chez l'humain adulte, en tout cas. Par ailleurs, donc, les conséquences de ces observations, et en particulier le fait que l'allergène puisse se retrouver dans le lait et que la présence de TGF-bêta soit importante, a comme implication tout simplement déjà de comprendre les discordances des études épidémiologiques. C'est vrai que la grande majorité des études montrent que l'allaitement protège, mais clairement pas toutes. Alors, quelle est la différence? Un des facteurs de différence que nous soulignons, c'est la présence d'un allergène dans l'environnement que les mères vont respirer ou non, et qui va, suivant la physiologie de la glande mammaire, se retrouver ou non dans le lait. Donc, il est intéressant de savoir que les taux d'allergènes qu'on a retrouvés dans le lait, dans notre modèle expérimental, étaient tout à fait comparables aux taux d'antigènes alimentaires. Donc, on n'était pas dans des quantités exorbitantes, c'est de l'ordre de 100 nanogrammes par ml. Et ces quantités extrêmement faibles d'allergènes retrouvés dans lait suffisaient à induire une tolérance, ce qui est très, très loin des quantités décrites chez l'adulte pour induire de la tolérance orale. Donc, en effet, cet allergène dans l'environnement est peut-être un facteur important. Et donc, au vu de ces données observées au laboratoire, on propose de développer des nouvelles études cliniques qui, cette fois-ci, auront en paramètre avec comme paramètre crucial qu'on étudiera, c'est l'impact de l'exposition de mère à des allergènes respiratoires pendant la période d'allaitement et voir l'impact donc de cette exposition sur le développement de tolérance et le développement d'asthme chez les enfants allaités. Par ailleurs, si ça se vérifie, donc ces données se vérifient chez l'homme, sera évidemment des conséquences de stratégies de prévention primaire des maladies allergiques et on pourra éventuellement proposer aux mères de les exposer, au contraire d'aller se promener dans les prés pendant qu'elles allaitent et surtout d'éviter toutes les pratiques d'éviction telles que des matelas anti-acariens, etc. Et qu'au contraire, avoir beaucoup de chats, des pollens et des acariens sera bon pour leurs petits. Évidemment, tout le monde ne peut pas allaiter, et puis aussi, après un certain moment, on cesse d'allaiter, en général de 3 mois. Et donc, comment maintenir la tolérance? On pense que le TGF-bêta est très important donc, pour le processus de tolérance, et le TGF-bêta est justement absent des laits artificiels. Donc là aussi, on pourrait penser à modifier les laits artificiels et, pour permettre, là aussi, une meilleure induction de tolérance. Et enfin, nous sommes très optimistes et nous pensons aussi que ce que nous avons vu dans une maladie allergique pourrait s'appliquer à d'autres maladies, en particulier par exemple le diabète auto-immun, sachant qu'on retrouve dans le lait maternel l'insuline, qui est un des antigènes majeurs, qui la cible de destruction des îlots de pancréas dans le diabète auto-immun, et peut-être que le passage d'insuline dans le lait maternel pourrait également expliquer pourquoi certaines études rapportent que l'allaitement prévient aussi des maladies auto-immunes. Et je conclurai avec cette belle image de Picasso qui lui aussi aimait bien l'allaitement maternel.
C'était Valérie Ferrasselt, chercheure au laboratoire des maladies infectieuses, auto-immunes et allergiques à l'INSERM. Elle présentait ses travaux face aux académiciens des sciences, des recherches qui portent sur les bienfaits potentiels du lait maternel pour lutter contre le risque d'asthme chez les nourrissons. Poursuivez sur ces questions d'allaitement en compagnie de Claude Didier-Jean Jouvaux dans notre émission Éclairage, une émission en libre écoute et libre téléchargement sur notre site canalacademy.com. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.